VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique, le magazine de l'économie avec Bagassi Koura. C'est dans moins de 5 minutes, mais tout d'abord l'actualité. On commence par la Centrafrique. Des combats ont opposé les forces internationales à des éléments de l'ex-Séléka dans la ville de Bria, dans le centre-est du pays. La MINUSCA et Sangaris ont repris certains édifices publics. Il n'y a aucun bilan précis, mais il y a des morts et des blessés. Le point à Bangui avec Thierry Missongo du réseau des journalistes des droits de l'homme.
Il s'agit, selon les témoignages, d'une attaque menée contre la position des Séléka qui ont occupé la ville de Bria depuis. Et donc, ces forces internationales sont partis juste pour déloger ces forces non conventionnelles qui contrôlent cette zone depuis la prise de la République centrafricaine par la coalition Séléka. Donc, il s'agit d'un général Arda qui serait au contrôle de cette ville. Donc, c'est lui et ses éléments qui ont été attaqués ce matin par la force internationale en mission de consolidation pour la paix en Centrafrique.
Mais quelle situation prévaut à l'heure actuelle à Bria?
On nous fait savoir que le général Arda qui contrôle cette zone serait capturé. D'autres informations nous font savoir qu'il serait en fuite sur l'axe de Wadja qui va jusqu'à Samwanja et qui mène aussi jusqu'à Verndélé. Mais la population reste cachée dans la maison. D'autres ont fui dans la nature pour éviter les affrontements. Nous cherchons encore à confirmer ces informations pour avoir une idée exacte sur la situation de la ville de Bria.
Le journaliste Thierry Missongo, joint à Bangui par Félix Yepassis Zembrou. 20 Camerounais ont été enlevés dans le nord du Cameroun par des combattants de Boko Haram qui ont ensuite exécuté 12 d'entre eux. C'est ce que rapportent ce mardi plusieurs agences de presse, dont l'AFP et EPI. Jacques Aristide.
Les passagers kidnappés se trouvaient à bord d'un bus qui a été intercepté par les islamistes nigérians, d'après une source sécuritaire au Cameroun, qui a précisé que le véhicule venait de Kosa et se rendait à Mora, deux villes situées à quelques dizaines de kilomètres l'une de l'autre, près de la frontière nigériane. Selon la même source, de simples citoyens sont régulièrement enlevés dans la région sans que cela émeuve personne. Certains sont souvent libérés lorsque leur famille négocie, alors que d'autres sont tués. Depuis des mois, Boko Haram multiplie les attaques contre des cibles civiles et militaires dans le nord du Cameroun. Une cinquantaine de militaires camerounais ont déjà perdu la vie dans cette région depuis le début des attaques, au mois de juillet.
Au Niger, le Parlement a donné son feu vert à l'envoi de troupes au Nigeria pour combattre Boko Haram, mais à Diffa, dans le sud-est du pays, la psychose s'installe et Idriss Fall.
À Diffa, la capitale provinciale du sud-est du pays, la population fuit par crainte de nouvelles attaques des islamistes de Boko Haram. Hier, une autre explosion dans le secteur de la douane a fait au moins 5 morts et 16 blessés. Depuis vendredi, la ville a subi des attaques répétées. Devant le Parlement, hier, le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo, a affirmé que la situation à Diffa est grave et dramatique. Les 102 députés de l'Assemblée nationale ont approuvé à l'unanimité l'envoi de troupes pour combattre Boko Haram au Nigeria. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont entendus samedi pour créer une force régionale de 8700 hommes pour faire face aux djihadistes. Le PAM, Programme alimentaire mondial, est préoccupé par la violence des attaques de Boko Haram, a indiqué sa porte-parole à Genève, Elisabeth Buzz. 125 000 réfugiés nigérians se trouvent dans la région de Diffa depuis 2013, une région qui fait frontière avec l'État de Borno, fief de Boko Haram au Nigeria.
Le premier ministre malien est arrivé aujourd'hui à Alger. Sa visite intervient alors que les pourparlers entre le gouvernement malien et 6 mouvements armés du nord du pays doivent débuter demain dans la capitale algérienne. Le Mali n'a d'autre choix que de s'inscrire dans la dynamique de paix, estime Modibo Keïta, cité par l'agence de presse algérienne EPS. Le premier ministre malien espère que les pourparlers vont déboucher rapidement sur un accord, lever des rideaux sur ces négociations donc demain. Reprise des hostilité au Soudan du Sud, le gouvernement accuse les rebelles d'avoir bombardé ses positions à Bentiu, ville pétrolière du nord du pays. Des travailleurs humanitaires cités par l'AFP ont confirmé les bombardements. Juba promet donc de riposter. La trêve signée début février n'aura donc pas tenu longtemps. Il s'agissait du 7e cessez-le-feu en un an. Plus de 600 immigrants ont tenté de franchir la frontière séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Seuls 35 y sont parvenus, dont 5 ont été blessés, ont annoncé les autorités de Melilla citées par l'AFP.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Washington a confirmé aujourd'hui la mort d'une Américaine détenue en Syrie par le groupe État islamique. Il y a 4 jours, les djihadistes avaient fait savoir que la travailleuse humanitaire Kayla Mueller a été tuée lors d'une frappe de l'aviation jordanienne contre la ville de Raqqa, bastion de l'État islamique. Les circonstances de sa mort n'ont pas été rendues publiques et la déclaration de la Maison-Blanche n'offre aucun détail relatif à cette décapitation, à cette mort. Kayla Mueller avait été kidnappée en Syrie en 2013. Les Émirats arabes unis ont repris aujourd'hui leur participation au raid de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Il y a un mois, le pays avait suspendu ses frappes suite à la capture d'un pilote jordanien en Syrie qui a été ensuite exécuté. Nicolas Pino.
Oui, dans un communiqué, le commandement militaire émirati a annoncé que des avions de l'escadron de F-16 positionnés en Jordanie ont lancé ce mardi matin des raids contre des positions du groupe terroriste, atteignant leur objectif et regagnant leur base sans dommage. Le communiqué émirati ne précise pas dans quelle région les raids ont été lancés. Par ailleurs, dans un entretien à la BBC, le président Bachar el-Assad a lui affirmé être tenu au courant des raids aériens de la coalition dans son pays contre les djihadistes de l'État islamique. Parfois, ils transmettent un message général, il n'y a pas de dialogue, il y a, disons, information, a-t-il dit en s'exprimant en anglais. Les messages transitent par des pays tiers, l'Irak et d'autres nations, affirme Bachar el-Assad, alors que la guerre civile en Syrie a débuté depuis bientôt 4 ans.
Les diplomates européens, russes et ukrainiens travaillent d'arrache-pied à l'élaboration d'un test qui va servir de matrice à leurs dirigeants pour un plan de paix à négocier au cours du sommet de Minsk prévu mercredi. Tous les espoirs se fondent sur l'issue de ce sommet. Demain, en Biélorussie, entre Vladimir Poutine, Petro Poroshenko, François Hollande et Angela Merkel, c'est pour certains un plan de dernière chance qui vise à mettre fin à 10 mois de guerre. Mais selon une source diplomatique française citée par l'AFP, les négociations sont difficiles. Il est à chope sur plusieurs sujets litigieux. Pendant ce temps, les violences continuent. L'agence France-Presse rapporte que l'état-major de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine a été bombardé ce mardi pour la première fois depuis le début de la guerre. L'administration régionale de Donetsk fait état de 5 civils tués et 16 blessés, dont 2 enfants, dans cette attaque à la roquette. 10 soldats ukrainiens ont été également blessés quand une roquette a touché une piste d'atterrissage. Les combats dans l'est de l'Ukraine ont fait plus de 5300 morts depuis 10 mois. Voilà, les 23 footballeurs ivoiriens vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations ont reçu chacun plus de 30 millions de francs CFA de prime du président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur français Hervé Renard, invité ce mardi d'après l'AFP au palais présidentiel au plateau à Abidjan, a reçu le bonus le plus élevé, 75 millions de francs CFA. Ces joueurs en sont repartis propriétaires d'une villa à 30 millions de francs CFA et la même somme en espèces, selon le ministre des Sports Alain Lobognon, cité par l'agence France-Presse. L'ensemble de la sélection a également été décoré du titre de chevalier de l'ordre national. Les frères Touré, Kopa Bari et Siaka Tene, déjà distingués par le passé, ont été promus officiers de l'ordre national, tout comme Hervé Renard. La présidence de la FIFA, toujours aussi convoitée. Sepp Blatter, le président en exercice et grand favori, à sa propre succession fera face à 3 candidats. Les 4 candidatures ont été validées lundi, vous le savez, par la commission électorale de la FIFA, l'instance mondiale du football, en vue du vote du 29 mai prochain à Zurich. Les 3 adversaires du président sortant sont l'ancien Ballon d'Or Luis Figo, le prince jordanien Ali, un des vice-présidents de la FIFA, et Michael van Braag, président de la Fédération néerlandaise de football. Sepp Blatter, je vous le rappelle, est âgé de 79 ans. Il est à la tête de la FIFA, l'instance mondiale de football, depuis les années 1998. Vous êtes sur VOA Afrique. Restez sur cette radio. Dans quelques instants, vous aurez le magazine de l'économie. C'est avec notre cher Bagassi Koura qui est déjà en studio.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
en lieu et place de Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres, tout d'abord, les problèmes de délestage sont un thème récurrent dans plusieurs pays africains, avec toutes les conséquences que l'on sait. Ce soir, gros plan sur les enjeux de l'électrification du continent. Une nouvelle étude soutient que les produits sur les marchés à ciel ouvert en Afrique sont meilleurs que ceux des supermarchés sur le plan de la santé. Et puis au Kenya, la découverte de pétrole en 2012 dans le comté de Turkana dans le nord du pays a envenimé les relations interethniques dans cette région. On commence par l'actualité du jour. La grève générale se poursuit au Gabon. Lundi, le mouvement dynamique unitaire a rencontré le Premier ministre pour exiger de parler au président Ali Bongo. Nathalie Barge a contacté à Libreville Aminata Ndiomba, présidente du syndicat des agents des organes de communication du service public.
Cette situation dure depuis 2009 parce que le gouvernement a promis depuis cette date aux travailleurs que le renouvellement du SMIG et du point de vue devait se faire. Nous sommes rentrés en négociation en 2012 avec le gouvernement et en 2012, il était consigné dans des documents qu'en mars 2014, le relèvement du SMIG et du point d'indice devait être appliqué. Nous sommes arrivés en mars 2014. Le Premier ministre actuel a convoqué les syndicats pour leur dire qu'effectivement, le délai qui était mentionné dans des documents sur ce point concernant le relèvement des salaires ne peut pas se faire maintenant et que c'était renvoyé à une date ultérieure. Vous voyez bien que cela a encore une fois de plus gêné les travailleurs qui n'ont pas baissé les bras, qui se sont retrouvés autour d'un mouvement qu'on appelle MOSAP. MOSAP, c'est le mouvement des agents de l'administration publique qui, cette fois-ci, avait posé le problème, non pas seulement de renouveler les salaires, mais également d'épurer, de régler la situation des rappels qui dataient depuis au moins 30 ans. Il y a des agents publics au Gabon qui sont restés 30 ans sans que leur situation administrative soit régularisée et sans que les rappels soient payés. On s'est mobilisé autour de ce mouvement pour faire la pression au gouvernement pour que cette situation de rappel et de régularisation des situations administratives, aussi bien des postes budgétaires, parce que dans notre administration, on trouve des agents qui sont payés à moins de 100 000 francs, 80 000 francs, et qui sont en attente des postes budgétaires depuis très longtemps. On prend le cas du secteur de l'éducation, où les enseignants sont là depuis plus de 10, 15 ans, et sont payés à monnaie de singe. Depuis lors, ils attendent le poste budgétaire. Donc, au cours de ce mouvement mené par le MOSAP, on a pu quand même obtenir une partie de paiement des rappels et la régularisation des situations administratives. Mais jusqu'à ce jour, tous les rappels n'ont pas été payés.
Aminata Ndiomba, elle est présidente du syndicat des agents des organes de communication du service public au Gabon. On le disait en titre, les problèmes de délestage sont un thème récurrent dans plusieurs pays africains, avec toutes les conséquences que l'on sait. Eh bien, ce soir, un coup d'œil sur l'Afrique du Sud, les difficultés auxquelles est confronté le secteur de l'énergie sud-africain ont donné donc lieu à une levée de boucliers à travers le pays contre la mauvaise gestion de la compagnie d'État, la compagnie Eskom. Si les plus nantis arrivent à s'en sortir, la situation est beaucoup plus critique pour la grande majorité de la population, Lionel Gaïma.
Sheila Twala est âgée de 63 ans. Elle vit à Soweto, un township de Johannesburg, depuis 14 ans. Dépourvue d'une source de revenus, elle dépend entièrement de l'électricité subventionnée par le gouvernement, contrairement aux plus fortunés qui peuvent s'acheter des générateurs, des panneaux solaires, des fours et autres appareils pour leurs besoins en énergie. Comme Twala, des millions de Sud-Africains ne reçoivent plus depuis quelque temps un service constant de l'entreprise publique Eskom et elle ne cache pas sa frustration.
Nous étions très contents de voter pour des Noirs au gouvernement. Nous étions certains qu'avec des Noirs au pouvoir, nous n'aurions plus à souffrir comme au temps de l'apartheid. Mais c'est dommage. Maintenant, notre gouvernement noir nous fait souffrir.
Il faut dire que pour les gens comme Sheila Twala, le délestage peut durer plusieurs jours, voire toute une semaine, et personne ne sait quand cette situation va changer. Eskom, qui est un monopole de l'État sud-africain, avoue qu'un manque d'investissement, un entretien inadéquat, des bas tarifs, une dette énorme et le retard dans la construction des nouvelles centrales électriques vont obliger la compagnie à poursuivre pendant plusieurs années sa politique de délestage programmée afin d'empêcher l'effondrement du réseau dans son ensemble. Tableau plutôt sombre pour ces millions de Sud-Africains, la majorité de la population qui ne gagne pas plus d'1,25$ par jour. Utiliser du bois pour la cuisson est une option peu réjouissante, dit Twala.
C'est une torture extrême. La fumée emplit mes yeux, le four est trop chaud, mais je dois quand même faire à manger. De plus, nous allons en brousse pour recueillir le bois. Je ne peux même pas exprimer la souffrance que nous traversons en hiver.
Les élèves aussi se plaignent des délestages. Ce jeune de Soweto, Phineas Ngomane, a 20 ans. Il dit que c'est dangereux d'utiliser des bougies pour étudier. Souvent, le travail est mal fait et ils perdent 2 points. À travers toute l'Afrique du Sud, la plainte est la même. Eskom doit rétablir la livraison régulière du courant électrique, ce qui, dans les circonstances actuelles, est loin d'être une probabilité.
Voilà, délestage et coupe de courant sont assurément les mots les mieux partagés dans beaucoup de pays africains. Qu'on soit riche ou pauvre, personne n'est épargné. Les défis sont nombreux pour garder les lumières allumées sur le continent, Michel Joseph.
Une petite entreprise de Nairobi avait débuté par la location des costumes de fête et s'est maintenant développée dans le secteur des services aux restaurants et aux supermarchés. L'entreprise fournit plus d'une tonne de crème glacée par jour. C'est une histoire à succès, mais pour Betty Mbite, qui gère cette petite compagnie, le manque d'électricité met en péril ses activités.
À un moment, l'année dernière, lorsque nous sommes restés 3 jours sans électricité, nous ne pouvions rien faire du tout, parce que les machines ont besoin du jus pour marcher. Une chambre froide a besoin d'électricité et aucun travail ne peut être fait sans électricité.
Pour garder ses clients heureux, il faut donc du courant 24 heures sur 24, car sans courant, il n'y a pas de glace. L'électricité est donc l'une des premières dépenses de cette compagnie. Le problème n'est pas spécifique au Kenya, on le rencontre dans presque tous les pays africains. L'électricité est souvent inaccessible, trop chère et trop souvent non disponible. Quelques 600 millions d'Africains n'y ont pas accès. Le continent consomme moins d'électricité que partout au monde, mais paye le même tarif qu'aux États-Unis et le double de celui en vigueur en Asie de l'Est. Donald Kaberuka, président de la BAD, la Banque africaine de développement, au forum de Davos cette année.
À ce moment, every single African country is experiencing energy.
En ce moment, chaque pays africain subit des pénuries d'énergie et des coupures de courant. Cela coûte au continent 2% de son produit intérieur brut. En fait, un leader africain dit que nous sommes un continent de miracles. Si nous avons une croissance de l'ordre de 5% sans assez de courant, imaginez ce que ce serait si nous avions suffisamment d'électricité.
Selon lui, le manque d'infrastructures est l'un des plus gros défis pour la distribution du courant. Même des pays riches comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria en arrivent à rationner le courant. Et d'après le patron de la BAD, Donald Kaberuka, la solution ne saurait être pays par pays, individuellement.
It is not possible for our individual 54 countries.
C'est impossible pour nos 54 pays pris individuellement d'avoir la sécurité énergétique à partir de leurs ressources domestiques. Nous devons créer un marché régional viable pour l'électricité. Et ça, c'est possible.
Bien sûr, les investisseurs mettent de l'argent pour des projets d'énergie renouvelable sur le continent. Cela aide un peu, mais il y a beaucoup à faire pour combler le fossé.
Oui, et les experts en énergie affirment qu'il est urgent d'accélérer le rythme de l'investissement public et privé pour l'éclairage en Afrique. Selon eux, les gouvernements seuls ne peuvent pas faire le travail et doivent impliquer le secteur privé pour combler le manque d'électricité. Le reportage de Mariama Diallo et Jean-Roger Bion.
Selon les experts, l'Afrique subsaharienne a d'énormes ressources inexploitées de gaz, de pétrole, de charbon, d'énergie géothermique, solaire, hydraulique et éolienne. Pourtant, la Banque mondiale dit qu'un Africain sur trois vit sans électricité. Stephen Ndjiru est le directeur de Geothermal Development Company du Kenya et conseiller en énergie du président de ce pays. Il dit que les gouvernements seuls ne peuvent changer cela.
Il y a eu des initiatives, des politiques, des lois. Il y a eu des mécanismes de régulation qui ont été mises en place. Mais il y a eu un énorme fossé. Et on a besoin de la participation du secteur privé pour renforcer les capacités.
Lors d'une récente rencontre à Washington sur l'électrification de l'Afrique, Ndjiru a souligné qu'il était temps d'accélérer la participation du secteur privé.
Nous aimerions nous asseoir ensemble et voir si nous pouvons surmonter ce problème parce que nous croyons qu'il y a un énorme marché là-bas. Nous croyons qu'il y a beaucoup à faire par le secteur privé.
Le Kenya est l'un des 5 premiers pays à lancer le partenariat Power Africa du président Barack Obama pour augmenter la capacité d'alimentation et d'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité est essentiel en cette ère, a souligné le chef de l'exécutif américain. Africa Power a mobilisé plus de 20 milliards de dollars du secteur privé pour les nouveaux projets d'électrification. Andrew Erkovitz est le coordinateur pour les initiatives d'électrification et de commerce en Afrique.
Solar Reserve, une société américaine basée à Santa Monica en Californie, vient de remporter un marché en Afrique du Sud pour construire un projet solaire de 100 MW concentré. Nous avons un autre grand projet avec Global Gigawatt, une société américaine qui va être mise en service la semaine prochaine au Rwanda aussi. C'est 8,5 MW qui vont fournir de l'énergie à des milliers de gens.
Mais tandis que les experts de l'industrie disent que le marché de l'énergie en Afrique est prêt pour la participation du privé, les investisseurs avertissent qu'ils se heurtent à des obstacles, y compris les coûts parfois élevés, des négociations souvent trop longues et des risques potentiellement élevés.
Jean-Roger Bion. Et pour terminer sur ce dossier de l'électricité, il faut noter que le Caire et Moscou ont signé ce mardi un accord préliminaire pour construire la première centrale électrique nucléaire en Égypte. C'est ce qu'a annoncé l'AFP, le ministre Abdel Fattah al-Sissi, en présence de son homologue Vladimir Poutine. Les deux pays ont signé un protocole d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire pour la production d'électricité dans la région du Daba, dans le nord de l'Égypte, a déclaré M. Sissi, cité par l'AFP, au cours d'une conférence de presse. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso va envoyer des chefs d'entreprise aux Pays-Bas. Et c'est la première fois, hein. Ce sera du 13 au 17 avril. Félix Fanon, directeur des services aux entreprises et de la coopération à la CCI, joint par Nathalie Barge.
Non, je dois dire que la Chambre de commerce, un peu dans le cadre de ses missions d'accompagnement du secteur privé, organise régulièrement des missions commerciales à l'étranger. Alors, la mission que nous organisons précisément aux Pays-Bas vise à offrir l'opportunité aux hommes d'affaires du Burkina Faso de rencontrer leurs homologues néerlandaises et d'envisager avec elles des partenariats d'affaires afin de renforcer leurs capacités et contribuer ainsi plus activement à l'accomplissement des objectifs de développement et de réduction de la pauvreté qui s'est fixée un peu notre gouvernement. Et c'est aussi l'occasion pour nous également de faire connaître un peu notre pays et les produits que nous pouvons offrir aux Pays-Bas.
Est-ce que l'économie a été fortement touchée par rapport à tous ces problèmes politiques?
C'est sûr que depuis début de l'année 2014, l'activité était un peu plus ou moins ralentie au niveau financier, compte tenu un peu du contexte politique, parce que les hommes d'affaires étaient assez méfiants, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut en affaires, il faut minimiser au maximum les risques. Et ces missions que nous organisons à l'étranger visent également à faire connaître un peu aux autres pays du monde que le Burkina va redémarrer, l'activité économique va redémarrer très bientôt avec les nouvelles élections qui vont se dérouler au mois d'octobre.
Alors, est-ce que d'une manière générale, on peut dire que l'économie internationale est moins méfiante vis-à-vis du Burkina Faso maintenant? Est-ce que tout rentre dans l'ordre?
Non, c'est vrai que nous avons connu un peu une période un peu, je dirais, qui est un peu délicate avec quelques petites contestations que nous avons vues, des grèves par-ci, par-là, mais je pense que c'est un processus normal qui va s'estomper progressivement avec les élections. Il n'y a pas d'inquiétude, l'activité va redémarrer en force.
Il est écrit dans votre communiqué d'ailleurs que les entreprises qui sont intéressées justement pour cette mission qui aura lieu fin avril peuvent donc postuler. Est-ce que jusqu'ici vous avez déjà eu des entreprises qui se sont proposées?
On a eu des manifestations d'intérêt en réaction aux mails que nous avons envoyés. Il faut se dire que nos entreprises ici se disent que le mois d'avril est encore loin. Donc, elles ne sont pas encore pressées de s'inscrire. Mais en général, les missions que nous organisons à l'étranger, nous mobilisons en moyenne entre 15 et 20 entreprises minimum.
Est-ce qu'il y a des domaines en particulier sur lesquels vous voudriez mettre l'accent?
Je pense que notre pays est un pays essentiellement agricole. Si nous pouvons renforcer la coopération à ce niveau, pour tout ce qui est donc production agricole, renforcement un peu de tout ce qui est transformation de nos produits, je pense que ça, c'est également des éléments sur lesquels vraiment nous mettons un accent particulier.
Voilà, c'était Félix Fanon, il est coordonnateur du Forum économique Africalia, joint à Ouagadougou.
Jacques Aristide, avec vous, ce jeudi dans Washington Forum, le report très critiqué des élections au Nigeria face au danger Boko Haram. Une crise électorale se profile-t-elle à l'horizon dans ce pays fragilisé? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le président Barack Obama a envoyé le 2 février dernier au Congrès son projet de budget 2016 d'un montant de 4 000 milliards de dollars. Il se propose de le financer par l'augmentation des impôts des plus nantis, une taxe sur les bénéfices accumulés par les compagnies américaines à l'étranger, ainsi que la suppression des coupes budgétaires automatiques. Et pas vraiment une surprise, hein, les républicains qui contrôlent les deux chambres du Congrès jugent ce budget coûteux et rejettent toute augmentation d'impôts. Pour une analyse, Chérubin Dorsil a joint l'économiste Pierre-Marie Boisson à Miami.
C'est un projet de budget qui doit être analysé en regard de l'échéance électorale prochaine, essentiellement l'élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre 2016. Or, ce qui se trouve dominer l'actualité actuellement en matière économique, c'est que le président Obama est aujourd'hui crédité d'un succès très important. La création d'emplois est à son plus haut niveau. Le chômage est actuellement à 5,6%. Si on regarde le comportement des marchés, le comportement de l'économie américaine en général, enfin du produit intérieur brut, de la croissance, tous les indicateurs sont au beau fixe. Donc, M. Obama va certainement passer cette performance-là comme label aux démocrates.
Sommes-nous en train d'assister seulement à un jeu politique, le président voulant peut-être établir les lignes de démarcation de la campagne de 2016?
Je crois que c'est principalement ça. Maintenant, il ne faut pas écarter le fait qu'un président qui est à son deuxième mandat, comme c'est le cas de Barack Obama, veut aussi laisser un héritage. Donc, il veut quand même montrer qu'il a demandé, même s'il n'a pas obtenu, mais qu'il a demandé des relèvements de dépenses, enfin des actions concrètes pour améliorer le sort des classes moyennes. La mauvaise répartition des richesses frappe d'abord les classes moyennes. Il y aura toujours beaucoup de pauvres dans n'importe quel pays du monde, et notamment aux États-Unis. Mais l'idée, la philosophie américaine, c'est d'établir une mobilité sociale de façon à ce que les pauvres deviennent non pas riches, mais rentrent dans la classe moyenne, et que la classe moyenne elle-même ait une meilleure part de la croissance économique.
Et vous relevez ce point dans le projet de budget du président Obama?
Barack Obama veut à la fois léguer à l'histoire une action volontariste pour justement améliorer le sort des classes moyennes. Barack Obama a réussi déjà à baisser le déficit budgétaire, donc il ne peut pas le réaugmenter. Donc pour ne pas le réaugmenter, sa philosophie classique, qui est la philosophie des démocrates, c'est de dire, bon écoutez, il y a une injustice fiscale très importante aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens les plus riches, et aussi les gens qui dépassent un certain niveau, des gens qui gagnent par exemple plus que 500 000 $ par an, ils ne sont pas suffisamment taxés, et que s'ils étaient davantage taxés, ça permettrait de financer tous ces programmes de relèvement du niveau de vie de classe moyenne.
Dans le climat politique actuel, entre démocrates et républicains, quelles sont les chances d'un tel budget? Est-ce que c'est simplement un exercice politique?
Vu par la plupart des analystes aujourd'hui, c'est un exercice politique. Les chances qu'un budget pareil passe sont quasiment nulles.
Voilà, c'était l'économiste Pierre-Marie Boisson, joint à Miami par Chérubin Dorsil. sera la semaine prochaine. Camille Gros-Didier sera là ici avec vous pour le magazine de l'économie. Ainsi s'achève donc cette édition du magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, c'était Bagassi Courant, lieu et place de Camille Gros-Didier. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine à l'écoute de la Voix de l'Amérique.